Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, les Grandes Gueules.
La grève SNCF, parce que les chemins de fer, la direction dira cet après-midi combien de trains circuleront. On va essayer de donner, ce que dit la SNCF, une priorité. Bien sûr, aux trains qui vont aller vers les stations, vers la route des vacances, vers la montagne. Mais écoutez ce que disait Gabriel Attal, le Premier ministre, il y a quelques minutes, à propos de cette grève.
Moi, je vais vous dire, je pense que les Français sont très attachés à notre Constitution et au droit de grève, et constitutionnel. Ils savent que la grève, c'est un droit. Mais je crois qu'ils savent aussi que travailler, c'est un devoir. Et notamment quand on doit permettre à des Français qui travaillent toute l'année, qui pour quelques jours ont probablement envie de pouvoir retrouver leur famille, leurs proches, de pouvoir le faire. Voilà. Moi j'appelle à la plus grande responsabilité, encore une fois, pour les Français.
Voilà, vous avez entendu, il appelle à la plus grande responsabilité. Le droit de grève, nous y sommes tous attachés, la grève est un droit. Travailler est un devoir, d'autant plus qu'arrive la période des vacances. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit le Premier ministre, oui ou non, 32-16, Antoine Dierce.
C'est le début d'une chanson de rap, là.
Presque. Antoine.
C'est tout revient au rap. Non, et moi, j'ajouterais une dimension dans le cadre de la SNCF, c'est un service public. Service public, il y a une dimension qui dépasse un peu le travailleur, il y a un sens de ce service à rendre. Et donc, effectivement, moi, je pense que là, ceux qui seront en grève ne respectent pas leur devoir. Leur devoir, c'est de travailler et, dans le cas de la SNCF, de rendre un service public auquel les Français sont attachés. Donc, il y a une dimension en plus par rapport aux autres quand on travaille à la SNCF.
Zorabitant.
Ce qu'il dit, c'est un peu, même si j'aime beaucoup Gabriel Attal, c'est un peu creux, quoi. La grève est un droit, travailler est un devoir. Oui, mais une fois que t'as enfoncé des portes ouvertes, ça veut rien dire du tout. La grève est un droit, donc elle est un droit, point. Elle fait chier des gens, comme diraient certains. C'est indéniable, mais c'est pas cette réponse qu'on attend. C'est la réponse, c'est il faut sortir de cet enfer de la SNCF qui consiste à nous polluer de grève de manière continue depuis des années. C'est qu'il y a un vrai problème. Une entreprise privée dont les fonds sont privés et qui a des objectifs économiques importants ou en tout cas impératifs, ne pourrait pas se permettre ce genre de grève à perpétuité. Donc ça veut dire que la question de fond n'est pas réglée. Il faut régler la question de fond à la SNCF, mettre tout à plat pour que ça s'arrête. Parce que au-delà du fait que les Français sont toujours, eux, les premières victimes de droits demandés par des salariés, ce que l'on peut dans une démocratie totalement comprendre et même accepter, il n'empêche que la récurrence des grèves à la SNCF au regard de l'argent qui est investi, au regard du prix des billets, au regard de l'impossibilité pour un certain nombre de Français d'utiliser la SNCF tellement c'est cher, je me dis qu'il y a un problème. Donc là, Gabriel Attal, il est adorable, il est gentil, mais il répond à rien.
Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi?
Il répond à rien.
Que fait-il pour l'empêcher?
Ils vont lui répondre, ils vont lui dire la grève est un droit, merci monsieur le Premier ministre, la grève est un droit, et donc pendant qu'on fait grève, on ne travaille pas. Maintenant, répondez à la question de fond. Parce que moi je suis au GG ici depuis des années, il n'y a pas une année où on ne parle pas quatre fois de la SNCF. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Comment tu peux injecter autant d'argent dans une entreprise et avoir des salariés jamais contents, ou en tout cas avoir le besoin impérieux de revendiquer un certain nombre de choses? Eh bien on a un problème.
Juste un mot, Antoine. Au plan du droit. Alors, je ne suis pas un spécialiste du droit de grève. La grève est un droit, mais il y a aussi un encadrement juridique de la grève. Et l'encadrement juridique de la grève, de mémoire, il prévoit que ça ne doit pas perturber outrageusement la production de l'entreprise ou du service. Et le droit prévoit aussi la possibilité de réquisitionner. Et donc, moi, je le dis... je le dis à Gabriel Attal.
Pour réquisitionner, il faut des conducteurs, il faut des contrôleurs.
Mais si on doit faire tourner des trains, on réquisitionne, de la même manière que un certain nombre de fonctionnaires de la fonction publique sont réquisitionnés pour assurer le service. Rappelons-nous que le train, c'est un service public. Et donc, allons jusqu'à réquisitionner. Mais tu fais tourner les hôpitaux, les pompiers, si tu veux, leur droit de grève est encadré, les policiers, les militaires.
Bien sûr, il y aura pas 100% de grévistes. On aura un trafic. Alors de combien sera-t-il? Il y aura peut-être 30% de
réquisitionnons
de trafic.
Le nombre.
Si tu réquisitionnes,
nécessaire.
Tu brises le droit de grève pour faire rouler 100% des trains. En fait, tu veux en faire rouler combien?
Un maximum. Bah, un maximum. Je pense que ça, c'est le vrai signal. Là, pour l'instant, Gabriel Attal, il est dans une déclaration. Oui. S'il réquisitionne, effectivement, là, on aura un truc plus sérieux.
Alors, j'ai plusieurs choses là-dessus quand même. Premièrement, au concours du Creux, Gabriel Attal obtient la médaille d'or. Ça, on est tout à fait d'accord. La grève est un droit, mais travail est un devoir, ce qui ne veut strictement rien dire, à part que c'est un moment comme avec toujours le classique, les grévistes prennent les Français en otage, avec le classique, il faut qu'ils soient responsables. On l'a déjà entendu 32 000 fois. Et la grève est un droit, mais... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Que la grève est un droit à condition, alors c'est encadré, mais à condition du travail, c'est contradictoire, parce que c'est pas à condition du travail. T'es en grève ou tu travailles, mais enfin, voilà. Tu peux être les deux. Comment dire? Parce qu'à ce jeu-là, je peux aussi sortir le préambule de 46 qui dit qu'il y a un droit à l'emploi. Je tiens à le dire. Hein. Donc, si vous voulez, on peut aussi chacun sortir son truc juridique dans tous les sens et faire droit de voir. La séance com. Ça, c'est un. Deuxièmement, je suis désolé. Je veux dire, ce qui s'est passé à la SNCF, c'est-à-dire qu'on a transformé une entreprise qui avait un statut public autrefois en société anonyme. On a transformer cette société en entité financière à qui on a demandé d'être la plus rentable possible. C'est pour cela qu'elle a fait des choix délirants en choisissant toujours les grandes métropoles en négligeant le reste. Ça, les travailleurs vont pas le payer. Je veux dire, le choix qu'on a été placer nos trains en situation de concurrence avec le reste de l'Europe de manière complètement conne, les travailleurs vont pas payer ça. La politique tarifaire qui était autrefois kilométrique et maintenant qui n'est plus kilométrique, je veux dire, autrefois... Quand c'était un monopole, c'était clair. On habitait à Paris, on allait à Marseille, ça coûtait toujours plus cher que d'aller à Rennes parce que la distance kilométrique était supérieure. Aujourd'hui, plus personne ne comprend rien aux tarifs SNCF qui sont faits complètement au nom d'une logique qui est complètement celle de la rentabilité. Et maintenant, on va devoir accabler des travailleurs en disant que toute cette politique foireuse de la SNCF depuis tant d'années, c'est la responsabilité des travailleurs qui veulent pas bosser. Moi, je me dis que là, il faut arrêter, quoi.
C'est pour ça que l'opportunité serait de se dire comme ce gouvernement, en tout cas Gabriel Attal a l'air de vouloir traiter un certain nombre de questions de fond, c'est de se dire effectivement, est-ce qu'on peut pas ne pas traiter la question de revendication uniquement par le prisme de l'attente d'une réponse et donner peut-être quelques miettes pour qu'il retourne travailler, mais de se dire que quelque part il y a peut-être un problème beaucoup plus profond et beaucoup plus important et qui aurait des incidences sur le fait que ils auraient plus du tout envie de se mettre en grève et qu'on aurait une entreprise qui ferait des bénéfices, mais non pas sur le dos des salariés et encore moins sur le dos des usagers. Donc c'est ça la question de fond.
En l'occurrence, c'est surtout sur le dos des contribuables que vient la SNCF aujourd'hui.
Oui, mais les usagers, quoi, et pareil.
Même pas les usagers, les contribuables. Non, c'est les contribuables qui renflouent la SNCF.
Non mais, là-dessus...
Je rappelle que l'État a renfloué 43 milliards depuis 2007
à la SNCF.
C'est
pas normal.
Société nationale des chemins de fer. 43 milliards.
Oui, monsieur.
43.
Non mais, juste plusieurs choses. C'est que la SNCF est passée d'une logique d'usager à une logique de client, d'accord? Donc c'est ce qui
change tout.
Ça change tout parce qu'elle a recréé une classe, deux classes, trois classes. Première classe, vous avez les moyens, vous partez depuis les gares parisiennes avec des trains SNCF TGV Inouï. Vous avez moins de moyens, vous finissez dans des gares de banlieue en Ouigo. Et vous avez encore moins de moyens, troisième classe, vous finissez dans un bus. Bon, ça c'est un.
Ça donne le choix.
Autrefois, c'était autre chose.
De la manière dont tu le présentes, il y a une espèce de collectivisme à la soviétique.
Les jeunes sont contents
d'avoir les Ouigo, d'avoir les bus.
Sauf Alain, c'est une entreprise publique, on doit être traité de la même façon.
Non, mais c'est-à-dire l'idée historique.
Selon ce que tu payes, enfin.
Vas-y.
L'idée historique.
C'est tout le monde.
Non, mais la SNCF, historiquement, c'est quoi sa fonction? C'est de l'aménagement du territoire. C'est ça sa fonction.
Oui, c'est de transport public, déplacer les gens à travers le territoire.
Et quand on crée, par exemple, le plan Fraissinet à la fin des années 1870, qui était le premier plan grand de train, c'était, il fallait une gare dans chaque sous-préfecture. C'est ce qu'on appelait le plan Fraissinet à la fin des années 1870. C'était important, il fallait faire de l'aménagement du territoire. L'idée, quand c'était une logique d'usager, c'était comme l'histoire du timbre au prix unique. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où on se trouve sur le territoire, riche, pauvre, on doit avoir accès à un même niveau de technologie et de services, quelle que soit notre situation économique. Et il y avait des réductions pour des catégories spécifiques. Les anciens combattants, ceux qui faisaient leur service militaire, les familles nombreuses, les personnes en situation de handicap, etc. Ensuite, on a déstructuré le monopole intégré de l'État à partir des années 90, dans cette grande folie européenne qui s'appelle les directives de libéralisation, qui ont frappé l'énergie avec les conséquences que l'on sait, qui a frappé les transports avec les conséquences que l'on sait. Ce qui fait qu'effectivement, on a tellement été mal pensé le truc, qu'aujourd'hui, on a déstructuré le transport des marchandises par le ferroviaire, qu'on a négligé les petites lignes, et qu'aujourd'hui, on a transformé certaines lignes en véritables citrons, c'est-à-dire le Paris-Lyon qui coûte hyper cher, et qui est le citron pressé de la SNCF. Donc, fondamentalement, on a complètement désorganisé et pensé cette entité que sous une forme financière. Et on a financiarisé la dette de la SNCF, et je renvoie d'ailleurs à des travaux de quelqu'un qui a parfaitement parlé de tout ça, c'est Benjamin Lemoine, qui a très bien présenté de ces choses-là. Et donc, moi, je dis, fondamentalement, ces orientations qui ont été au niveau européen, au niveau national, nous les payons, les travailleurs les payent, et cela me paraît insupportable.
Mais les petites lignes ferroviaires vont venir.
Juste un mot, voilà. Parlons des petites lignes ferroviaires. En fait, Frédéric, ta démonstration est très bien, mais tu confonds service public, service apporté et mode de production du service public. Pour toi, pour rendre du service public, ça doit nécessairement se faire par une entreprise publique. Moi, je ne pense pas. Je pense que les entreprises publiques ont montré qu'elles engloutissaient du pognon pour produire un mauvais service.
Tu penses à la délégation de services publics, c'est ça ?
Exactement. Ouais. Et moi, je pense que l'État stratège doit entretenir les rails. Il y a un sujet, d'ailleurs. Dans quelques années, on parlera de la difficulté.
Donc, RTF.
Mais l'État entretient les rails. Ensuite, l'État fait appel à des opérateurs privés, indépendants, pour faire circuler les trains, et l'État fait des délégations de services publics pour les petites lignes, ou quand la petite ligne n'est pas rentable, l'État il fait un appel d'offres. Bon, alors vous me la prenez en échange de combien ? Et là, tu vas produire du service public, pas nécessairement par une entreprise publique, mais le service rendu aux usagers sera de qualité.
C'est la délégation
et
de service public.
Distinguons
pourquoi
le fait que l'entreprise soit publique. Et
croire que la gestion par le privé est meilleure, c'est faux.
Non, on n'a pas dit qu'elle était meilleure, on a dit que la solution de la délégation du châssis, parce qu'il y a de la rentabilité.
Antoine, il n'y a pas débat, c'est meilleur.
Il y a de la rentabilité, forcément.
J'ai fait mon mémoire de fin d'études en droit public sur les délégations de services publics. La seule difficulté qu'on a aujourd'hui dans les collectivités et dans l'État, c'est qu'on ne sait pas rédiger de bons contrats. Qu'on ne sait pas manager nos délégations de services publics. Mais tu rédiges un bon contrat où tu dis à l'opérateur privé, au moindre retard, c'est tant de pénalités, au moindre train qui circule pas, c'est tant de pénalités, etc. Et le service sera rendu.
On continue la discussion dans un instant. On est parti de la petite phrase prononcée par le Premier ministre, là, il y a quelques minutes, il y a moins de deux heures. Voilà ce qu'il a dit à propos de la grève à la SNCF. La grève est un droit, mais travailler est un devoir. Et il en a un peu assez la fâcheuse habitude de la grève au moment des vacances. Ce qui va faire hurler Christophe du côté de la Côte d'Or et les cheminots. Et on verra ce qu'en dit Manu aussi, chauffeur poids lourd, qui nous appelle de Corse.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
J'ai les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On discute, on débat dans les grandes gueules depuis 9h ce matin jusqu'à midi. Il nous reste un petit quart d'heure de discussion avec vous au 32-16. Bien sûr, si vous avez raté les grandes gueules aujourd'hui, eh bien vous avez les podcasts à votre disposition sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr avec les indiscrets, les GG enregistrés pendant les pauses pub. Je peux vous dire, parfois, ça vaut son pesant de sel et de poivre. Christophe est avec nous, cheminot en Côte d'Or. Bonjour Christophe.
Bonjour les grandes gueules.
Alors, vous voulez que je vous rappelle la phrase du Premier ministre ou vous l'avez en tête là,
mon cher ami ? Je l'ai en tête.
Alors, qu'est-ce que vous en dites, monsieur le cheminot ?
Alors,
c'est de la sous-culture.
Par rapport à ce qu'il a dit, effectivement, la grève est un droit et le travail est un devoir. On refuse pas de travailler, on veut juste être écouté. Il y a une différence, je crois. Mmh. Et ma hiérarchie accède à ce qu'on a demandé. Je retourne au travail, il n'y a pas de problème.
Vous êtes cheminot, vous êtes conducteur, vous êtes contrôleur ?
Je suis contrôleur, oui.
Contrôleur, d'accord. Donc il faut qu'il y ait, pour que le train roule, il faut qu'il y ait au moins une des trois professions dont on parle régulièrement. Voilà, le contrôleur, le conducteur et l'aiguilleur. Oui. Donc si vous n'êtes pas à bord du train, le train ne peut pas rouler, on est d'accord.
Voilà, exactement, ouais, pour ce point de vue sécurité, oui.
Mais vous avez entendu depuis ce matin qu'on en parle dans les grandes gueules, nous-mêmes, et je peux vous dire qu'autour de cette table, tout le monde prend le train, hein, vraiment.
Oui.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qui dit la vérité, vous voyez ? Parce que quand on vous écoute, vous les cheminots, les contrôleurs, vous dites Jean-Pierre Farandou nous ment, et quand Jean-Pierre Farandou parle, il dit mais non, moi j'ai avancé, on doit encore négocier, il y a même des rendez-vous qui sont fixés, et on a du mal à piger, Christophe, très franchement.
Moi, je vais vous dire, j'ai une trentaine d'années de chemin de fer. En fait, j'ai perdu énormément depuis que je suis au chemin de fer. On me dit, l'excuse maintenant, c'est change de métier s'il ne te plaît plus. Mon métier me plaît énormément. Le problème, c'est que j'ai perdu énormément. Déjà, vous êtes tous au courant, le cheminot part plus en retraite à 55 ans, c'est un mythe. Donc on a pris 6-7 ans dans les dents, hein. Et maintenant notre salaire est resté par contre lui au plus bas. Donc on aimerait une revalorisation salariale. On aimerait aussi que notre métier soit un peu mieux considéré, parce que je vous assure que c'est pas tous les jours simple dans le train. Et moi j'adore discuter avec les voyageurs dans le train et leur expliquer pourquoi je fais grève. Encore hier, j'étais au travail, je me suis expliqué avec deux personnes dans le train, et je vous assure qu'à la fin, ils comprenaient mon point de vue. Je n'hésite pas à donner mon salaire, il n'y a aucun problème là-dessus.
Et vous êtes à combien aujourd'hui, Christophe, justement ?
Alors, mon salaire, mon traitement, alors je parle de traitement, attention, hein, je parle
oui,
pas...
Oui, bien sûr.
Salaire
bien sûr.
Je parle de mon traitement, il est à 2134.
D'accord.
Avec 30 ans de chemin de fer. Hein.
Ok, là-dessus, il y a les primes qui sont intéressantes,
voilà,
qui se rajoutent, effectivement.
Il y a les primes.
D'accord.
C'est pareil pour les enseignants.
Et donc, ça vous fait arriver à combien en comptant les primes?
Si on lit. On a 2700, on
d'accord.
va dire.
D'accord. Et l'un des motifs de grève, c'est cette fameuse prime de travail.
Voilà.
C'est ça que vous voulez voir revaloriser et intégrer pour la retraite.
Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, je sais qu'il y a d'autres corporations qui font comme nous, qui partent. Nous, on part. Moi, je sais que deux soirs par semaine, je suis pas à la maison.
Bien sûr, je travaille dimanche.
Mais
ça, vous le saviez aussi en intégrant.
Bien sûr.
Un découché, c'est une prime. C'est combien une prime de découché?
Une prime de découché. Alors, vous savez, c'est tellement opaque que je pourrais pas vous dire exactement.
Les vôtres, mais ça vous est payé en plus.
Je pourrais pas vous dire exactement. Mais non, ça m'est pas payé en plus. Bah, moi, dans ce que je vous ai dit, les 2700.
Quand vous dormez pas chez vous, vous avez une prime?
Non.
Il y a des frais.
Les 2700. Quand je vous ai dit les 2700 là. C'est ces primes de découché qui sont incluses dedans.
Mais oui, parce que vous avez un traitement brut de 2100 et voilà. Vous arrivez à un... Alors, une fois qu'on a 2100, on retire les charges sociales.
Voilà.
Et ensuite, on rajoute les primes.
Exactement.
Et il y a un certain nombre de charges sociales sur les primes qui ne sont pas sur le traitement.
Exactement.
Le montant est totalement différent. Et à la fin... On passe de 2100 brut, on devrait arriver à peu près à 1800 net.
Voilà.
Et finalement, vous arrivez à 2007. Voilà. Et ce que vous demandez, parce que c'est le lot de toute la fonction publique, ce que vous demandez, c'est que finalement, vous ayez un brut de 3000 euros pour arriver à 2004, 2005. Bah. Mais du coup, dans votre retraite, il y aura un traitement brut qui sera calculé de 3000 euros et non pas 2100 euros.
Voilà, exactement.
C'est ça. Non, mais
c'est important par rapport à la modification.
Mais bien sûr.
Alors, j'avais raison de demander par rapport en plus à l'évolution des régimes des retraites et des réformes.
Mais totalement. Sauf que.
Bien sûr.
Sauf qu'il y a la retraite. Attendez, parce que. Par exemple, dans la fonction publique, il y a la retraite additionnelle de la fonction publique. C'est-à-dire que les primes sont prises en compte pour la retraite sur un régime à part.
Alors,
mais pas vous. Donc voilà.
Mais vous n'êtes pas fonctionnaire, donc ça va pas.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Il a longtemps, il a statut fonctionnaire.
Non, on est assimilé fonctionnaire.
Ils sont assimilés, mais ce qui pourrait être aussi une piste.
On peut se faire virer maintenant. Donc,
non, mais ce qui pourrait être, Frédéric, ce qui pourrait être aussi une piste, ce serait que justement ces primes qui lui permettent de passer de 2100 à 2007 puissent être calculées dans l'indice, dans le traitement brut pour la retraite.
Mais même à part. Il y a plein de personnes dans le privé. Il y a plein de bonhommes qui ont un tout petit fixe et qui ont des primes.
Les commerciaux notamment.
Les commerciaux.
Je pense aux commerciaux, exactement.
Attendez, donc, Christophe, on va en discuter avec Manu aussi aujourd'hui. Bonjour Manu.
Salut, bonjour tout le monde.
Je vous rappelle la petite phrase de Gabriel Attal ou vous l'avez en tête?
Ah, elle est magnifique. C'est magnifique.
La grève est un droit, travailler est un devoir.
C'est la poésie. Ah ouais, c'est magnifique. Alors bon, après vous allez rigoler, hein, c'est encore ce qui vous appelle à ce sujet. Donc je vais souffler sur le chaud et le froid en même temps. Je vais
allez-y.
Dire, j'ai toujours travaillé hein, depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé l'apprentissage très tôt. Je m'en suis sorti contrairement à ce que mes enseignants disaient.
Oui.
Et je trouve que 2700 euros, c'est un beau salaire. C'est un beau salaire. Il y a des gens qui se cassent le dos, qui ne touchent pas ça. Il y a des infirmières, il y a des gens dans les EHPAD qui se ruinent la santé, qui ne touchent pas ça. Moi, je pense qu'on est un peu aussi dans un pays d'enfants gâtés, là.
Hein. Ouais.
Là, ça, c'est n'importe quoi. Et je vais, donc là, je souffle de ce côté-là, mais je souffle de l'autre côté aussi parce que, voilà, les phrases dans un politique qui détient des vérités, je les trouve magnifiques. Que le droit de grève soit dans la Constitution, c'est pas un souci. Bien sûr, voilà. Mais d'où c'est un devoir de travailler. C'est quoi cette vérité inventée?
C'est écrit nulle part qu'il y a un devoir de travailler. Mais je pense que quand il dit ça...
Après, vous allez dire, ça y est, c'est un corps qui dit cette phrase.
Non, non, mais là... Non, non, mais Manu, vous savez...
Le travail, c'est la santé.
Manu, pourquoi on rigolerait dans les grandes gueules? Vous plaisantez ou quoi?
C'est vrai que, avouez que quand même, on vit dans un monde où c'est quand même fort qu'un politique, au lieu de trouver des solutions. Moi, des devoirs, moi, j'aimerais que les hommes politiques accomplissent tous leurs devoirs comme il faut aussi.
Manu, vous savez pourquoi il dit ça, à mon avis, Gabriel Attal? Lorsqu'il parle de droit de grève, il fait allusion au fait que ce soit un service public. Oui, oui. Je pense que c'est là-dessus.
Je l'ai compris. Ça, c'est pas un problème. En fait, ce qui est vraiment emmerdant dans l'histoire, c'est pas que les gens soient en grève, c'est que ça soit bloqué.
C'est ça.
Il a un problème.
C'est ça.
Manu, bougez pas parce que Christophe est toujours avec nous. Christophe, qu'est-ce que vous répondez à Manu?
Alors déjà, 2 700 euros, c'est pas mon salaire. Hein. Mon traitement est de 2134 par mois.
Tous les Français parlent du bas de feuille de paye. Hein.
Le problème, c'est que la feuille de paye, moi je suis malade, quoi que ce soit, ou je fais un arrêt maladie, je retombe à 1700
Comme le commercial qui perd ses primes.
Je sais. Par contre, tous les Français ne partent pas en découcher, ne voient pas leurs enfants tout le temps, quoi, tout ça. Quoi.
Une grande partie le font, ils pleurent pas.
Alors attendez. Moi, j'entends ce que dit Manu. À ce moment-là, pourquoi on n'arrive plus à recruter à la SNCF si c'est tellement un métier qui fait rêver? Pourquoi les salaires à ce niveau-là?
Où il fait rêver ton métier? Il fait pas rêver.
C'est bien ce que je dis. Mon métier ne fait pas rêver.
Mais vous avez sclérosé ce système-là. Il est, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne ailleurs? Ça fonctionne plus en France. Pourquoi il y a des grèves tous les ans à chaque période de scolaire? Oh, il y a des enfants, ils vont pas voir leurs parents à cause de vous.
Ça m'embête bien, mais j'ai pas la solution.
Ah, franchement, moi, ça t'embête. Et tu vas dormir
pour
ce soir.
Pas envie de grève, quoi.
Christophe, à ce moment-là, faut reprendre le boulot, quoi. Accepter les propositions de la direction. La direction dit qu'elle fait des bonnes propositions.
Non, mais y a pas
et qu'en
de
plus.
Là. C'est ça que je voulais.
C'est ça que je comprends pas.
C'est pas de proposition.
Moi, je vais vous dire une chose. Chaque fois que j'ai bossé, hein. J'ai fait 15 ans dans une boîte. J'ai fait 15 ans dans une boîte, je suis parti du jour au lendemain. J'ai rien négocié. Quand on aime plus son travail, on s'en va, on change. J'ai gagné ma vie, je vais pas négocier un départ, machin, un truc. La France, c'est un panier de crabes avec des solutions pour faire patiner l'affaire. Et avec derrière une administration qui vous fait des 1000 feuilles de papier pour que tout le monde se noie dedans. Il faut se mettre au boulot. T'aimes pas bosser? Ben, tu bosses pas.
Je suis fan de mon travail. Le problème, il est pas là. J'ai pas envie de changer de travail. Je l'aime, mon travail. Le souci, c'est qu'on n'est pas rémunéré à juste valeur. Monter dans un bain, suivre un contrôleur.
Il faudrait que la France totale soit en grève.
Regardez son travail et vous allez voir. C'est pas un boulot de tourpeau quand même. C'est pas un boulot de tourpeau. Hein. Je vous assure qu'il nous arrive des fois d'arriver le soir au foyer, parce qu'on dort bien souvent dans les foyers. On est bien tendu. Hein. On est bien tendu. Et on a beaucoup, beaucoup d'histoires à démêler dans le train, que ce soit sécuritaire ou sûreté ou quoi que ce soit. C'est pas un boulot qui est facile. C'est un boulot que j'adore. Mais par contre, il faudrait une reconnaissance. Moi, maintenant, j'ai perdu 6-7 ans par rapport à la retraite. J'ai perdu énormément d'avantages. Maintenant, je paye. Sachez aussi qu'on paye le train depuis le mois de janvier. On a avantage en nature qui est retiré sur notre salaire. Donc, il faut arrêter tous les avantages des cheminots. Quasiment ont été retirés. Donc, c'est normal qu'on demande une compensation salariale.
Manu, vous entendez ce qu'il dit, Christophe, quand
mais
même?
Mais non, mais ça me fait rigoler. Il faut arrêter. Prenez un barman. Il travaille. Il gère de la viande souple toute la journée. Vous croyez pas que lui a des problèmes à gérer aussi avec des gens? Et puis, il touche moins. On les voit en grève. On les voit se plaindre, ces gens-là. On est dans un pays où les gens ne sont pas capables de faire des arbitrages, d'accord? Et ils veulent que tout le monde pense comme eux. C'est pas possible.
La différence, c'est que la situation de travailleurs de cheminots à la SNCF, parce que c'est la SNCF, tu peux te permettre le luxe, justement, d'être en grève et en revendication. Mais ce qu'il décrit comme situation de travail où les salaires sont bas, où le travail est pénible, où les horaires sont incroyables, où il n'y a pas beaucoup de partage, où le profit ne profite pas toujours aux salariés, c'est le lot de millions de Français. Sauf que 90% des Français ne peuvent pas se permettre le luxe de se dire demain, je suis vendeuse dans une boutique, je suis payé 1 400 euros, j'arrive le matin à 9h, j'ai une pause de midi à 3h, je ne sais pas où aller parce que j'habite trop loin, je reprends à 15h et je termine à 20h et j'ai j'ai des petits-enfants et il faut que je paye la crèche, etc. Mais moi, si je fais grève, la patronne, elle va me dire, bah, écoute, au revoir. Au revoir.
Merci Manu, bonne journée. Merci Christophe, merci Manu, bonne journée du côté de la Côte d'Or et de la Corse. Ciao Manu, ciao Christophe.